Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mars 2014 et c'est le numéro 32. Bonjour à tous, et oui, comme vous pouvez l'entendre, pour une fois ce n'est pas Cobal aux commandes, mais Yannick. Radio Rôliste va prendre un nouveau rythme, sans doute un peu plus rapide, et c'est pour cela que le maître des lieux m'a chargé d'animer l'émission une fois sur deux. Rassurez-vous, pour l'instant, l'émission reste la même.
À ce qu'il dit.
À ce qu'il dit. Pour ce numéro, je suis avec notre maître à tous, l'âme et la voix de Radio Rôliste, Cobal. Bonjour Cobal.
Salut.
Un nouveau venu dans l'émission aujourd'hui, réservez-lui bon accueil, c'est Steve.
Bonjour.
Portant fièrement la barbe rousse et soyeuse, nous avons François.
Bonjour.
Enfin, le meilleur ennemi de toute une génération, Jean-Baptiste est avec nous ce soir.
Bonjour.
Donc, au programme de ce numéro, nous aurons la critique de Tous pour un régime diabolique, par Cobal, sans doute un jeu sponsorisé par Weight Watcher. Ah oui, oui. Steve nous parlera de Explo Narrateur, un jeu à la croisée des mondes.
C'est ça.
Vampire City sera critiqué par François.
Voilà.
Et 13ème âge sera critiqué par Jean-Baptiste et moi-même. Et si nous n'avons pas perdu trop de temps, nous aurons un petit débat sur le packaging dans le jeu de rôle favorise-t-il l'acte d'achat.
Waouh. Ouais, ça c'est de la formulation hein, qui claque et au vent de la destruction comme un étendard funeste.
Vous êtes sur Radio Marketing.
Vous êtes sur Radio Marketing, exactement. Je vous propose de commencer par David.
Ah, déjà cash, ok, je pensais me reposer, mais ok, d'accord.
Allez, vas-y, donne.
Bon, très bien, aujourd'hui je vais donc vous parler de Tous pour un, sous-titré Régime diabolique. En français, dans le texte, puisque c'était déjà présent dans le nom d'origine, car c'est un jeu traduit. C'est un jeu de Paul Wade Williams, traduit en français et paru chez Sans Détour dans le format habituel des suppléments Cthulhu. Donc A4, couverture dure et dos rond, le tout pour 36 euros. A l'intérieur, c'est du noir et blanc sur deux colonnes, plutôt classique donc, même si je regrette le choix de la police des intertitres, qui est en écriture cursive pas super lisible. Alors cet ouvrage s'ouvre sur le sommaire, suivi de pas moins, je vous le donne en mille, 4 pages d'historique très chiants, comme je les aime.
Pourquoi
Mais bon,
l'historique sur quoi?
En fait, ça, l'ouvrage s'ouvre, tu sais pas encore ce que tu vas jouer exactement, tout ça. Et en fait, ça commence par un panorama général du siècle, en gros de la période historique dans laquelle tu vas jouer, avec plein de détails de vie quotidienne et tout, qui ont pas forcément leur place dans une introduction. Bah, c'est-à-dire qu'on apprend ce qu'on va jouer page 3. Enfin, au bout de 3 pages, même si on se doute que quelque part on aura des fleurets à la main, toujours dit que c'est un peu. C'est un peu chiant. Donc, je vais vous le pitcher quand même. Hein. C'est le 17e siècle et on va jouer les mousquetaires du roi contre les gardes du cardinal, avec une louche de surnaturel par-dessus, car il y a de la magie et des créatures démoniaques, en veux-tu, en voilà. Donc, on enchaîne ensuite sur 60 pages de création de perso, suivies de 11 archétypes prêts à jouer qui tiennent eux sur une vingtaine de pages. Donc la création proprement dite commence par le choix d'un archétype général, comme aventurier, rudit, espion, noble, etc. Suivi du choix d'une motivation pour ce personnage, du genre amour, gloire, beauté... Non, pardon. Amour, honneur, vengeance, etc. Cette motivation est un outil qui permet en gros de récompenser le roleplay de celle-ci par des points, convertibles en bonus au jet de dés, mais je vous en dirai un peu plus plus tard. On détermine les scores des attributs primaires du perso, genre force, corps, dextérité, charisme, du classique, puis des attributs secondaires comme le déplacement, la taille ou l'initiative. On choisit ensuite des compétences, en sachant que le niveau de base de chacune s'appuie sur l'un des attributs, ce qui permet d'utiliser certaines compétences sans avoir mis de points dedans. Donc la partie innée du perso, quoi. Pour chaque compétence ou presque, il est possible de prendre des spécialisations, et pour certaines d'entre elles, de ces compétences, il est possible de choisir une discipline. En fait, ça désigne toutes les compétences dont le champ d'application est très large. Par exemple, les arts,
l'éducation,
l'escrime ou la magie. Donc, pour l'escrime en particulier, ce sont des écoles d'escrime. Bref, chacune d'entre elles apportant des avantages au combat. Ou la magie, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ensuite, on a une quinzaine de pages où le joueur pourra choisir ses talents, lesquels apportent des avantages et sont soumis à conditions. Bon, comme vous l'aurez deviné, en gros, ce sont des dons façon Donjon 3.5.
Donc, attends, j'ai pas tout compris. Donc, t'as des compétences, oui. Des caracs et, oui. Et des dons.
C'est voilà, ça c'est ça.
Ça reste assez classique. Quoi.
Voilà, donc ensuite, des ressources, donc richesse, un refuge, enfin, et des défauts pleins. On a enfin 4 pages de tableau comme on les aime, qui récapitulent tout ce qui précède. Seconde grande partie du jeu, le système, qui est appelé Ubiquiti, qui est utilisé dans d'autres jeux, il me semble.
Je connais pas.
Je sais pas trop. Donc le principe d'un jet est le suivant, on lance son pool de dés, tous les résultats pairs sont des succès, et l'on doit passer un seuil de difficulté avec les succès obtenus.
D'accord, comment tu crées ton pool de dés? C'est le caractère plus compétence?
Oui, voilà, ouais, en gros.
D'accord.
C'est ça. Sinon, il y a donc il y a les points de style qui sont l'outil de pour favoriser le roleplay dont je parlais tout à l'heure. Donc on te donne des points de style quand tu fais des trucs cool dans l'aventure, les classiques. Si tu apportes à manger, si tu dessines le plan du donjon, si tu écris les aventures sur Cassius Noe, si tu
c'est pas mal ça.
Un peu les points de l'arbin.
Les points de l'arbin, non plus les ça récompense aussi les bonnes idées, le fait de réussir le scénar, enfin bref.
Je suppose que c'est le meneur de jeu qui les distribue.
Oui, bien sûr. Pour les combats ensuite, comme je le disais tout à l'heure, le joueur peut prendre une discipline d'escrime correspondant à une école. Parmi 9, exemple, il y a Del Rio, Dardi, Scarlotti, bref. Chaque école apportant un bonus spécifique à certaines situations. Tour de combat, classique, init, attaque, défense, mouvement. À la place d'une attaque classique, parce que ça c'est assez cool, à la place d'une attaque classique, on peut utiliser une manœuvre de combat. Donc la charge, le désarmement, une défense totale, projection... utiliser la ruse, par exemple, en jetant du sable dans les yeux de l'adversaire ou en utilisant ta cape ou Dieu sait quoi. Puis on a une liste de modificateurs divers et variés, s'il grêle, si on tombe sur un sol sec.
Il y a vraiment marqué s'il grêle.
Non. Non, mais il y a les couverts, les demi-couverts.
D'accord, c'est classique. Enfin, dire, t'as une grande table avec plein de modificateurs
voilà,
partout.
Avec en veux-tu, en voilà, par pelleté. Et voilà. Après, la magie. Donc, alors c'est très étonnant parce que pour un jeu de cap et d'épée, la magie est extrêmement développée.
Attends, excuse-moi, j'ai une question juste avant la magie.
Oui.
T'as passé très rapidement le système de jeu, tu nous as pas dit ce que tu en pensais, enfin si ça te semble utilisable, s'il y a des originalités, si...
Alors originalité à peu près aucune. Je pense que ça doit être sympa à l'usage d'utiliser les manœuvres de combat, parce qu'il y en a quand même pas mal de décrites, il faut bien avouer.
Est-ce que t'as senti une adéquation du système avec l'univers proposé?
Ouais, ça si quand même. Faut quand même pas déconner. Le truc de combat a l'air plutôt cool. Je pense que ça doit bien se passer.
D'accord.
Donc par contre, on passe. Ensuite, il y a la magie, car effectivement, on peut lancer on peut jouer des lanceurs de sorts. En lisant le background, j'ai pas compris parce que. Alors, dans le contexte du jeu, la magie est interdite, les pratiquants sont exécutés, etc. etc.
Mais la magie est quelque chose de connu dans cet univers-là?
Oui.
C'est-à-dire que le peuple, il connaît un peu, enfin, il sait qu'il y a des magiciens qui existent?
C'est plutôt de l'ordre de la rumeur ou des trucs comme ça, à moins qu'ils en aient vu eux-mêmes.
Ouais. J'ai une question, en fait, par rapport au background. Mm-hmm. J'ai peut-être pas bien suivi, mais c'est de l'Europe, enfin c'est l'Europe en mode fantastique ou c'est un univers de Medfan différent?
C'est la France en mode fantastique. Ouais,
d'accord.
Tout à fait.
D'accord, c'est pas comme Seven Sea où c'était un univers de fantasy qui s'inspirait. Là, c'est bien la France, l'Europe.
Oui, voilà, tout à fait. Seven Sea, c'était de l'Europe fantasmée, en fait. Ouais. Alors que là, non, c'est du mousquetaire qui est dans la période adéquate pour qu'il y en ait et avec une dose de démon en plus.
D'accord.
On joue des lanceurs de sorts, mais en fait on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils déboulent chez les mousquetaires. c'est, moi j'ai pas trouvé d'explication sur comment est-ce qu'ils pouvaient se retrouver là, ni comment est-ce qu'ils pouvaient être amenés à utiliser leur sort pendant la partie. Ce qui est rigolo, c'est que le système de magie, c'est un système freeform où tu construis ton sort un petit peu comme tu veux. Et je trouve ça étonnant pour un jeu de cap et d'épée, on te donne un système qui collerait avec Ars Magica, tu vois.
Ouais, ouais.
Et je trouve ça étonnant et pas super adapté, même si le système en lui-même est pas nul, hein. Mais je vois pas bien ce qu'il vient foutre dans cet univers-là.
Bah, la question que je me pose, ouais, c'est à quel point la magie, en fait c'est la suite de la précédente, c'est, ouais, à quel point la magie est intégrée dans l'univers. Est-ce que c'est des lanceurs de boules de feu ou est-ce que c'est plutôt des gens qui sont conseillers du roi? Est-ce que, tu vois, j'arrive pas à comprendre, moi, ce que les magiciens viennent faire là-dedans, contrairement par exemple aux lames du cardinal dont on parlera à un autre moment, ouais, où là pour le coup c'est super intégré avec un background super fouillé et intéressant.
Ah non mais on sait pas.
Là on s'est dit tiens, on va faire des mousquetaires avec des boules de feu.
Avec des lanceurs de sorts parce que c'est cool.
D'accord,
mais
c'est pas,
c'est
très
vrai,
bien intégré.
C'est vrai que c'est cool, mais il n'empêche que mettre, tourner la chose de façon à l'orienter là-dessus, ça me
dans certains... un peu mieux.
Oui.
Moi j'ai une question, parce que, ouais, j'entends ta description, et, ouais, globalement, quelle est la plus-value du truc? Parce que tout ce que tu as dit là, ça pourrait être du donjon 3.5 avec, ouais, un chapeau, avec, ouais, une plume et une rapière.
Exactement, bah, ça fera partie un peu de mes conclusions. Je continue, mais je reviendrai sur ce truc en particulier. Donc après, tout ce qui concerne la magie, on a de l'équipement avec une tonne d'armes, voilà, qui va bien. Un petit chapitre d'aventure qui, pour le coup, est plutôt pas mal foutu, qui permet de régler le niveau de puissance des PJ en distribuant des nombres de points différents. Et la notion de suspense insoutenable qui en fait formalise un petit peu la partie, dans le sens où on comprend qu'elle est censée ressembler à une série télé où à la fin le personnage se retrouve pendu à une corniche par une seule main, et là tatatin, et épisode la semaine d'après.
Donc on doit finir par des cliffhangers.
Voilà. C'est, okay, c'est un peu c'est ce qui est fortement suggéré. Ensuite, ça fait, ça balaye assez rapidement le style cap et d'épée, avec les notions de moralité dans les des personnages dans ce qu'ils vivent, et le fait qu'ils doivent se positionner par rapport au bien et au mal, etc. La romance, ça aborde aussi le réglage du niveau de surnaturel. Donc du coup, si on le passe à zéro, à quoi servent les règles de magie?
Bref. Non, mais c'est une possibilité.
Oui, du coup, ça, c'est une possibilité.
Mais est-ce que ça reste intéressant? Attends, t'as une,
oui,
question?
Oui, ma question, c'est si on met à zéro le...
Plus proche.
Plus proche, excusez-moi. Ouais. Si on met à zéro le curseur sur le surnaturel, ça devient un jeu complètement historique dans son background?
Non, je pense que ça reste une variante un peu... Oui.
Bah, en fait, il n'y a peut-être pas que la magie, il y a des créatures fantastiques,
il y a,
des choses,
oui,
comme ça.
Voilà, après,
donc si tu mets le curseur de magie à zéro...
Alors, est-ce que le surnaturel, c'est uniquement le fait de lancer des sorts, ou alors est-ce que les créatures en font partie ou non?
Voilà. Bien vu.
Alors ensuite, le livre propose toute une liste d'idées d'aventures qui revisitent tous les classiques du genre. Transport de messages confidentiels, retrouver un prisonnier évadé, libérer un otage, retrouver les ferrets de la reine, etc., etc. On trouve aussi une liste des lieux intéressants pour les combats, et avec notamment une allusion à tout ce qui est phénomène météo. Par exemple, rien de tel qu'un combat à l'épée tout en haut d'un moulin pendant un jour d'orage.
D'accord.
Il y a aussi une liste de PNJ, d'organisations maléfiques, et du background générique, on va dire, sur la vie de tous les jours, sur des trucs comme ça.
Ça, c'est intéressant, ça.
Une page sur le grand méchant du jeu, qui est Richelieu. Et en fait, quand j'ai lu sur le personnage, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ok, j'ai compris pourquoi le mec a écrit le jeu. Ah. En fait, il a eu une idée cool et il a tout centré là-dessus. Et en fait, c'est Richelieu et sa nature démoniaque, machin, tout ça. Et il s'est dit, je vais faire un jeu cool autour de ça. Enfin, c'est purement hypothétique, hein, ce que je raconte, évidemment. Je ne sais pas du tout ce que le gars a pensé. Mais toujours est-il que l'impression que j'ai eue, c'est que tout le jeu était basé autour du personnage de Richelieu et du fait que ce soit possiblement un démon, un machin comme ça.
Et c'est intéressant ou pas ?
Et c'est cool. Et c'est cool. Franchement, le petit chapitre qui est là, où il y a les idées d'aventure, les classiques, les machins, tout ça, c'est des trucs utilisables en jeu, tels quels, si on veut faire du mousquetaire.
Tu voulais dire un truc ?
Ouais. Oui, j'avais une question là depuis tout à l'heure. Tu as parlé de bien, de mal. Il y a une notion de manichéisme ? Il y a quelque chose de défini à ce niveau-là ?
Non. C'est juste sur la moralité en général.
Voilà. D'accord.
Donc, après, il y a des PNJ, il y a les organisations maléfiques. Donc, c'est plein d'organisations qui font des trucs tout pourris et qui servent de petits points de background sur lesquels on peut baser des scénarios et s'en servir comme ennemi récurrent, mais moins important que Richelieu. Et ça c'est cool aussi. Donc en gros, il y a ces deux petits chapitres là. Après, on a une fiche de perso moche, un index et une pub pour les lames du cardinal. Et ça, c'est un gros doigt à la douane à l'acheteur qui.
Alors justement, parce que j'avais une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Sans détour sort donc les Tous pour un, et ils sortent aussi les Lames du Cardinal, c'est-à-dire que c'est chez le même éditeur.
Ouais.
Sachant que c'est un
jeu du même genre.
C'est le même thème à tous les niveaux. Selon ce que tu me décris, et sans connaître plus que ça Tous pour un, les Lames du Cardinal est vraiment excellent. Bon, j'en parlerai la prochaine fois, mais pour moi c'est vraiment excellent. Donc effectivement, comment ça se fait que de manière éditoriale, un éditeur comme Sans Détour se permettre de sortir deux jeux identiques.
Si tu permets, je conclue et ouais. Voilà. Donc maintenant, ce que j'en pense. Très franchement, je trouve ce jeu médiocre. Pas mauvais, hein, mais juste très moyen. Les vraies bonnes idées sont rares, comme Richelieu, les démons, tout ça, les idées d'aventure, le fait d'avoir ces espèces de micro-idées qui te permettent de faire du mousquetaire. Et au final, ce qui fait l'intérêt réel du jeu aurait facilement tenu dans un petit bouquin genre mousquetaire de poche. Et donc, à noter que j'ai trouvé tout ce qu'il y a de plus légalement, le PDF de Mousquetaire et Sorcellerie, hors série Cassius, qui utilise basique de Chaosium, et qui fait tout aussi bien le taf.
Ouais, non, c'est clair.
Et voilà, et ma conclusion finale est la même que la tienne. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ce bouquin, et pourquoi en même temps que les Lames du Cardinal?
C'est un super pari, enfin c'est un pari bizarre parce que ça coûte des thunes, surtout que le bouquin est effectivement de bonne qualité.
Ouais, mais il est cher par rapport à son contenu.
Oui, parce que toi tu trouves que le contenu est médiocre, moi je trouve que c'est plutôt en comparaison des Lames du Cardinal qui pour le coup est vraiment, toi sort vraiment de l'ordinaire en termes de qualité, la boîte elle est superbe, le matériel à l'intérieur est phénoménal. C'est quand même très étrange d'avoir sorti une espèce de brouillon juste avant en même temps quoi, enfin juste avant en même temps. Non
ouais, j'ai pas compris. Bon, mais si vous avez envie de mettre 36€ dans un jeu de mousquetaire, alors pourquoi pas ? Parce que finalement, tu peux faire du bon jeu de mousquetaire, mais c'est un peu cher.
Ouais, mais avec ce que tu disais, c'est qu'avec Mousquetaire et Sorcellerie, tu fais la même chose en
ouais,
gratuit,
voilà, en gratos quoi.
Tu évoquais quand même un moment un certain coefficient cool.
Ouais.
Et enfin, est-ce qu'il peut justifier ? Parce que là, on taille un peu, mais finalement, un jeu, il peut suffire d'être cool pour qu'il soit intéressant d'y jouer, pour qu'il soit intéressant de l'avoir.
Mais en fait, finalement, la barrière qui me fait dire que le jeu est médiocre, finalement, ça reste le prix. Parce que s'il avait été sous une autre forme ou en PDF ou un truc comme ça, eh ben, ça aurait été nickel.
T'aurais pas eu le même sentiment.
Ouais, voilà, pour 10-15€, c'est un super jeu. Et là, c'est juste un jeu très moyen.
Ouais, c'est-à-dire qu'il est surdimensionné il est surdimensionné quoi, par rapport à son contenu.
Exactement. J'ai terminé.
Des questions ? Non, c'est bon ? Ok, donc on va passer à la suite. Donc le suivant, si il veut bien, en tout cas, c'est Steve. Okay. Alors parle bien près du micro, s'il te plaît.
Ok, ça marche. Alors, moi, le jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui s'appelle Explonarrateur. Alors, pourquoi je veux vous parler de ce jeu ? Parce que c'est un jeu qui est sorti il y a un petit peu plus d'un an, en novembre 2012, et j'ai entendu assez peu de personnes en parler, et je trouve ça très dommage. Donc, je dis pas mon avis sur la qualité du jeu, mais je dis déjà quelque chose, c'est que ce jeu apporte plusieurs idées qui sont extrêmement intéressantes. Alors, Explonarrateur, c'est quoi, c'est de qui et de quoi ça parle ? D'abord, c'est un jeu de Pierre Gavard-Coligny. Alors, Pierre Gavard-Coligny, c'est quelqu'un que la plupart des auditeurs connaissent sans doute sous le nom de Saladin, puisque c'était le créateur du domaine de Saladin. Donc
c'est avec toutes les vannes, tous les dernières
Famous Last Word
et tout ça. C'est ça, avant la DSL, c'est un site qui a fait les bonheurs de mes heures de permanence au lycée.
Ouais. Donc c'est un truc pour vieux, là.
Ouais,
c'est marrant que tu dises, parce que c'est vrai que c'était à cette époque-là.
Le jeu a été fait avec Hot Dog ou un truc comme ça.
Alors bon, c'est un truc pour vieux, mais bon, Saladin intervient encore dans certains forums et surtout, il continue à écrire des jeux et à traduire des jeux. Il a notamment traduit A Quiet Year pour Narrativis Edition.
Il avait bossé sur la traite de Nobilis aussi.
Ah d'accord. Alors sinon, c'est un jeu qui est disponible sous deux formes différentes. Donc d'abord, c'est disponible sous forme de PDF. C'est un PDF qui est gratuitement disponible sur le site que Saladin a créé pour son jeu. Donc vous pouvez lire le jeu avant même de choisir de l'acheter.
Oui, on mettra le lien sur le site.
Voilà. Et la deuxième façon de se procurer le jeu, c'est sous une forme de petit bouquin. Donc c'est un jeu qui est disponible sur Lulu, le site d'impression à la demande. Et quand je dis petit bouquin, c'est vraiment un très petit bouquin, puisque c'est un bouquin en format A6, qui est le même format que Dragon de Poche, dont vous avez parlé.
Nanochrome de la dernière fois.
Que Nanochrome aussi. Et c'est le plus petit format qui, à ma connaissance, existe sur le site Lulu. Moi, quand j'ai ouvert mon paquet, il y avait un autre bouquin à côté, et j'ai pas trouvé le jeu. Il était... Non mais exactement, je me suis dit, mais on m'a arnaqué. Lulu a oublié mon jeu et en fait il était caché derrière la facture.
J'ai trouvé sous une frite.
Donc surtout si vous commandez le jeu et que vous n'avez jamais commandé de A6, méfiez-vous, ne jetez pas le colis vide.
Rien à voir, une anecdote, j'ai eu exactement le même sentiment que toi en achetant Nanochrome et Dragon de Poche en même temps suite à une réduction des frais de livraison chez Lulu.
Tout pareil.
Et quand le bouquin est arrivé, j'ai dit: ah ouais, c'est petit quand même. Ça n'empêche qu'il y a plein de contenu, que c'est très intéressant, mais sur l'instant, ça fait drôle.
Alors,
ouais.
Non seulement c'est petit, mais pour Dragon de Poche, et alors j'ai pas lu Nanochrome, c'est un jeu qui est très très dense, il y a vraiment du texte un peu partout, la maquette n'est pas du tout aérée, il y a énormément de contenu. Ici, non seulement le format est tout petit, mais en plus c'est un jeu qui a une maquette très aérée et qui n'a que 52 pages.
D'accord, donc vas-y, parce que ça a l'air d'être léger, mais tant mieux.
C'est un jeu qui est petit à...
C'est à quel prix, chez Lulu ?
Alors, c'est à... J'ai regardé hier, il était à 6€, mais je crois que c'est une promo et que normalement, il est à 7€.
Ah, d'accord. Donc, vas-y, continue.
Je crois que Saladin se fait 1 ou 2€ dessus quand il est vendu.
Quand même.
Voilà. Alors, c'est quand on regarde la forme et qu'on ouvre soit le PDF, soit le bouquin, c'est un jeu qui est plutôt joliment maquetté, qui est en couleur. Donc, il est illustré par Saladin lui-même. Donc, Saladin, contrairement à Ogrumph, n'est pas illustrateur professionnel. Donc, ils s'en tirent convenablement.
Ça sent.
voilà, ils s'en tirent convenablement, mais on va dire que ces illustrations ne donnent pas un cachet.
Du coup, je suis curieux.
Non, mais regarde.
Moi aussi.
Pour faire une petite remarque, je me souviens que l'année dernière, au moment du Game Chef 2013, si je dis pas de bêtises, Saladin avait proposé un jeu qu'il avait lui-même illustré.
C'était, jeu qui a gagné d'ailleurs.
Oui, exact, merci. Exact.
Bah, moi je le vois d'ici, il est pas moche du tout. Hein.
Et,
j'ai déjà vu bien pire. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Moi, dans le souvenir que j'ai des illustrations qu'il avait fait pour son jeu pour le Game Chef, c'était tout à fait honorable et en plus bien dans le ton du jeu qu'il avait écrit.
Ah, vas-y.
Alors moi je suis quelqu'un, la seule chose que je peux dessiner c'est des bonhommes bâtons, donc je serais mal avisé de...
Mais en fait c'est du d'après photo je pense.
Je serais très très mal avisé de critiquer le style de graphique, mais je dis juste qu'il donne pas une identité incroyable au bouquin. Par contre, ce qui donne une belle identité graphique au bouquin, c'est que Saladin a travaillé avec des nuages de mots, donc c'est notamment, on en voit un sur la couverture, et ça illustre une bonne partie des pages de bouquin, et ça c'est vraiment une riche idée, parce que ça permet assez facilement d'avoir des pages assez jolies, et quand on survole le bouquin et qu'on tombe sur ces nuages de mots, moi je trouve ça plutôt joli. Donc c'est des nuages de mots avec plein de mots, et qui ont une forme particulière, par exemple une forme de chauve-souris ou une forme de chapeau. Alors maintenant que j'ai parlé de la forme, c'est un jeu qui est plutôt beau, on va être moins superficiel et on va s'intéresser à la beauté intérieure du jeu. Donc de quoi parle ce jeu ? Donc Explonarateur, c'est un jeu où on parle d'explonarateur et où on incarne des explonarateurs. Alors là, les auditeurs ont tous arrêté le podcast pour regarder dans le Larousse et ils se sont rendus compte que explonarateur, ça ne voulait rien dire, c'est un mot valise. Donc qu'est-ce que c'est qu'un explonarateur ? C'est à la base une personne qui est, comme vous et moi, parfaitement normale. Elle est boulangère, ouvrière, chômeuse, voilà, présidente de la République, étudiante, etc. Et un jour, il lui arrive quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est qu'elle se retrouve propulsée dans un univers fictionnel. Donc, c'est-à-dire, un univers fictionnel, ça peut être à la fois dans un genre particulier, par exemple, elle se retrouve envoyée dans un univers de western, ou carrément, elle est envoyée dans une œuvre connue. Par exemple, elle s'intègre, elle remplace Elizabeth Bennet dans Pride and Prejudice, ou alors elle devient Hermione Granger dans Harry Potter.
Ah, ça je connais, ouais.
Voilà, ou elle devient Superman dans Superman.
Ah, ça je connais aussi.
Ou donc... Order dans Maîtresse Particulière.
Ah, oh, je la connais.
Moi, je connais pas du tout ces choses-là.
Donc, pour rester dans un certain, pour rester dans un certain genre, on pourrait aussi jouer des mousquetaires.
On pourrait effectivement. Donc, est-ce que Explonarateur est un meilleur jeu que le jeu présenté par Cobalt pour jouer des mousquetaires? Je laisserai les auditeurs en décider. Et donc, ces Explonarateurs donc, sont propulsés par des avatars, donc des personnages dans les univers fictionnels, et ils vont rapidement se rendre compte que pour passer pour quitter les univers fictionnels dans lesquels ils ont atterri, ils vont devoir vivre une histoire intéressante. Donc voilà. Donc leur but sera donc pas de survivre à cet univers fictionnel ou de résoudre des missions pour leur personnage, mais juste un but très simple mais en même temps très intéressant pour la partie, qui est de vivre une histoire intéressante. Donc le danger auquel ils vont faire face, c'est pas la mort, puisque si leur personnage meurt, il se réintègre dans le même univers fictionnel et dans un autre personnage. Le danger, c'est la brisure de fiction, c'est-à-dire vivre des événements qui ne correspondent pas au canon de la fiction dans laquelle ils se trouvent.
D'accord, c'est pas le fait que l'histoire soit chiante.
Alors, en fait, le but, c'est qu'à la fin de la partie, on ait raconté une histoire intéressante. C'est ça qui leur permet de passer dans un autre, dans un autre univers.
Tu viens de me dire, c'est le maître de jeu et les autres joueurs, s'ils sont bien amusés.
Oui, c'est ça. Fin...
Mais au sein du jeu, dans le background, par exemple, est-ce qu'il y a un juge qui détermine pourquoi est-ce que tu dois passer d'un univers à un autre?
Non, il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est la bonne décision. Enfin bon, c'est la décision de tous les joueurs qui sont autour de la table.
Mais finalement, c'est si tu cloues le scénar que finalement que l'histoire acquiert le statut d'intéressant.
Oui, tout à fait. Il faut clore le scénar sur quelque chose qui est intéressant. Enfin, l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, on ait raconté une histoire intéressante. C'est explicitement l'objectif des personnages.
Ouais. Ensuite, une histoire qui se termine peut avoir été effroyablement chiante. Enfin, des bouquins que tu reposes en faisant « Oh là là, mon Dieu, c'était affreux !» ou un film, ça...
Imagine, t'es plongé dans le Silmarillion.
J'adore le Silmarillion.
Non, mais...
Même pas tu causes du Silmarillion. J'adore le Silmarillion.
Et tu sais, t'es plongé dans la vie d'un personnage et en fait, on parle jamais de toi, mais de toute ton ascendance sur 12 générations.
Ça, c'est pas la Bible.
Alors... moi ça me paraît un petit peu nébuleux, mais ok, continue.
Alors oui, tu me demandais c'est quoi le danger, donc les brisures de fiction. Le danger, c'est pas de raconter des histoires chiantes, mais c'est explicitement le fait de vivre des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter. Par exemple, on est dans un univers de western, et si un personnage est en train de commencer un duel avec l'autre, et qui dit à l'autre personnage... Bon, en fait, on reste potes, et qui lâche les armes et qui décide d'aller se boire une bonne bière au bar du coin. Bon,
putain, ce serait original, ce serait intéressant, moi, je trouve.
Dans un western, un truc comme ça me ferait un peu triper. Quand
bah
même.
Ouais.
Alors bon, ça serait original, mais ça ne correspondrait pas vraiment au canon du western.
Mais en fait, tel que tu le décris, je trouve ça finalement assez proche d'un jeu comme Histoire de Fou.
Alors moi, j'ai pas joué à Histoire de Fou, donc
tu es, en fait, t'es aussi... c'est à l'insu de ton plein gré, on va dire. C'est-à-dire que tu es projeté dans un monde, mais tu ne veux pas forcément y être, tu veux en sortir. Et du coup, il y a une vraie motivation pour changer, quoi. Et dans Histoire de Fou, tu as toujours un espèce de MacGuffin,
De trucs à suivre.
De trucs. En fait, tu as un espèce de souvenir d'une époque future où tu accomplis une certaine action. Et c'est cette action que tu dois réaliser pour sortir des cycles infernaux des scénarios d'Histoire de Fou.
J'allais dire que ça me faisait penser au rêve d'archétype dans Rêve de Dragon, mais je viens de percuter que c'était le même auteur.
Alors effectivement, de ce que tu me dis d'Histoire de Fou, à part cette histoire de MacGuffin qui sera ici remplacée par l'histoire de raconter une fiction de qualité, on est dans quelque chose d'assez proche. Alors, la brisure de fiction, ça, c'est à la fois ça a un impact en termes de background, mais ça a un impact autour de la table, parce que ça veut dire que si deux explo-narrateurs parlent ensemble de façon méta, donc de la fiction, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a un PNJ qui est à côté d'eux, alors ils n'ont pas le droit de parler entre eux comme s'ils étaient des explo-narrateurs. Ils peuvent pas se dire, et ils peuvent pas se dire là ça serait vraiment intéressant que tu fasses ça parce que ça raconterait une belle histoire.
Ah, j'avais pas compris, en fait ils sont conscients eux-mêmes d'être dans une histoire, c'est ça?
Oui, tout à fait, ils sont conscients et ils cherchent à clore une fiction de qualité et donc à sortir et à être projetés dans une autre fiction.
Il y a un côté mise en abîme, en fait.
Il y a un côté mise en abîme, alors je reviendrai là-dessus sur la conclusion, mais il y a un côté mise en abîme qui est vraiment très 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 amusant dans ce jeu.
Mais est-ce qu'il pourrait, les personnages eux-mêmes, tu dis que ce sont des messieurs tout le monde et tout ça,
oui.
Mais est-ce qu'on va aller titiller l'histoire des personnages eux-mêmes? C'est-à-dire que par exemple,
celui qui est projeté.
Imagine, tu te retrouves plongé dans une fiction où c'est ta propre famille, mais tu incarnes un membre différent.
Alors, ça serait possible. Alors, le jeu est enfin, ça pour une partie. Moi, j'ai joué qu'une partie simple de ce jeu, donc on a surtout insisté sur la fiction qu'on était en train de raconter. Mais si on joue en campagne, il y a vraiment moyen de beaucoup s'amuser avec le côté mise en abîme, à savoir l'explo-narrateur se retrouve envoyé dans un corps qui n'est pas du même sexe, ou alors il cherche à draguer quelqu'un mais qui est habituellement une très belle jeune fille, mais qui se retrouve être dans un corps de d'orque horriblissime.
C'est du code quantum aussi un peu.
Ouais, ça fait partie des inspirations. Je crois que dans les autres inspirations, Saladin cite Slider, ce genre d'histoire avec des univers parallèles.
Torg aussi, j'ai vu.
Ouais, effectivement.
Oui, où en fait, à la fin de chaque aventure, tu te débarrasses de l'univers en fait.
Oui, c'est ça, oui. Et non seulement on se débarrasse de l'univers, mais on se débarrasse d'une certaine façon des personnages, ouais. Puisqu'on n'incarne plus la même personne. Mmh. Enfin, on incarne la même personne, mais qui elle-même incarne une personne différente.
Alors justement, est-ce que le premier personnage qui est projeté dans cet univers-là a une quelconque importance? Ou est-ce que c'est pas juste, comme dans Rêve de Dragon, un vecteur? Et tu pourrais tout à fait dire, c'est moi qui me retrouve là-dedans, d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire.
Alors, c'est possible d'en faire un vecteur, mais disons que si on a l'intention de jouer en campagne à ce jeu, je pense qu'il y a quelque chose d'amusant de retrouver le même personnage de partie en partie.
Alors ma question c'est, est-ce que ce personnage-là a une quelconque importance, des caractéristiques? Est-ce que c'est important de le faire évoluer lui? Est-ce que...
Alors il a des caractéristiques, mais elles ne servent presque pas.
D'accord, alors vas-y, continue ton truc parce qu'on t'a coupé là.
Alors, avant même de parler des mécaniques de jeu, j'aimerais insister sur le fait que rien que le background est vraiment extrêmement intéressant au niveau de ce qu'il va apporter autour de la table. Il y a vraiment des idées qui sont assez géniales et qui amènent des parties qu'on n'a pas l'habitude de voir avec d'autres jeux. D'abord, cette idée que l'objectif des personnages, c'est explicitement de vivre une histoire intéressante, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Cette idée de brisure de fiction, c'est quelque chose d'assez amusante. Ça, autour de la table, ça se traduit par le fait que quand on a un PNJ qui est dans l'histoire, on ne se permet pas d'avoir des discussions méta. Donc quand il y a un PNJ autour, on n'a pas le droit de dire « va me chercher la pizza ».
Oui, mais tu peux travestir tes, bah, tes propos.
Alors, dans ces cas-là, tu peux soit travestir les propos, soit te débrouiller pour que le PNJ parte de la scène.
Ou alors ton personnage commence à raconter une fiction dans laquelle il y a un autre... dans lequel quelqu'un va chercher une pizza.
Alors le jeu est déjà assez complexe. autre idée sympa, le fait que les dangers, ça soit, enfin, le danger du jeu, c'est de raconter c'est de ne pas raconter une histoire qui soit mauvaise, puisque la mort n'existe pas vraiment dans le jeu. Donc les personnages incarnent des gens qui peuvent mourir, mais au final, s'ils meurent, ils s'incarnent dans d'autres personnages. Alors, je vais maintenant parler du système de jeu. Donc, tout d'abord, la création des personnages. Donc, elle est vraiment très simple et très rapide. On va créer à la fois l'explo-narrateur et le personnage dans lequel il s'incarne, qu'on appelle un avatar. Donc, pour ça, on va distribuer des points sur des caractéristiques. Donc, les caractéristiques de l'explo-narrateur, c'est esprit et corps. Mais l'avatar a en plus une caractéristique pouvoir si on est dans un univers magique. Donc c'est l'équivalent de la volonté ou de la foi dans d'autres univers. Et une dernière caractéristique, là pour le coup assez intéressante, c'est la caractéristique environnement. C'est une caractéristique qui permet d'introduire dans l'histoire des éléments que le MJ n'a pas introduits.
Il y a un truc implicite dans tes caractéristiques là, ça veut dire que les caractéristiques esprit et corps du personnage de base, donc pas de l'avatar, sont les mêmes pour chaque avatar?
Alors non, la caractéristique de corps de l'avatar change, mais par contre l'avatar récupère toujours la caractéristique d'esprit de l'explo-narrateur. C'est normal, il réfléchit avec le même cerveau. Alors maintenant, comment est-ce que la narration est comment est-ce que la narration prend place dans ce jeu? Ça fonctionne sur un système de tours. Donc toutes les parties fonctionnent à partir d'un nuage de mots. Donc j'en ai parlé plus tôt. Et avant de commencer la partie, on va choisir un univers et cet univers est présenté sous forme d'un nuage de mots. Donc par exemple, il y a un univers qui est l'univers d'Harry Potter. Cet univers est représenté par un nuage de mots avec des mots comme rogue, comme balai, comme magie, comme poustouf, comme Hermione. Et c'est un nuage de mots qui a la forme d'un chapeau. Et le jeu donc se déroule par une succession de scènes. Donc à chaque scène, on a un explo-narrateur différent qui est sous les projecteurs. Et à chaque scène, le maître de jeu va devoir cocher un des mots du nuage de mots et l'introduire dans sa narration. Donc par exemple, s'il coche le mot balai, il va falloir que la scène qui est racontée intègre un élément qui est le balai dans la partie.
Ok.
Alors, le jeu se termine quand il y a trois tours qui ont été... terminés. Et le jeu peut aussi se terminer s'il y a eu trop de brisures de fiction. Dans ce cas-là, la partie se termine et la partie est ratée. Donc on n'a pas réussi à passer dans un autre univers.
Tout le monde rentre chez soi.
Et il y a vraiment.
Et ils ont parti. Voilà, c'est une partie de merde.
Il y a vraiment un côté jeu dans le jeu, puisque si on peut perdre la partie ou la gagner, donc on la perd si on a trop de brisures de fiction.
En même temps, je trouve que ça peut être d'une certaine façon. Ouais, d'une certaine façon, on raconte une histoire qui n'est pas inintéressante. Si on raconte une histoire qui échoue, il y a quelque chose de tragique ou de...
Une belle tragédie.
Je suis d'accord avec toi, mais il y a une mise en abîme. Quoi. Il faut que l'histoire qu'on raconte dans la mise en abîme soit elle-même une histoire intéressante. Et c'est vrai qu'il y aurait quelque chose d'intéressant de raconter comment des explo-narrateurs échouent et se retrouvent à raconter quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt.
Et en plus... Il peut y avoir moyen finalement de rebondir, c'est-à-dire après avoir raté une narration, se dire tiens, le scénario suivant, d'une manière ou d'une autre, comme dans certains épisodes de Code Quantum, finalement, si je dis pas de bêtises, il peut y avoir moyen de rebondir et de transformer ça en un élément de narration à plus long terme.
Oui, tout à fait. Alors, ensuite, sur le système de résolution, donc le système de résolution est assez original puisqu'on utilise deux types de dés. On utilise des dés qui sont les dés. On utilise un dé qui est le dé omen. Et alors, c'est un dé qui est inspiré du FU système. Ce dé nous dit si l'action est réussie. C'est un dé qui est d'un type oui et, oui, oui mais, non et non et. Comme dans Vesberg, mais à la base, c'est un jeu, ça vient du FU système. Et donc, ce dé, il est lancé à chaque fois, et donc ça nous dit si l'action est réussie pour le personnage. Mais on lance aussi des dés de narration. Et les dés de narration, ça permet de dire qui, à la fin de l'action, va décrire l'action. Est-ce que ça sera le MJ ou est-ce que ça sera le joueur? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dé omen, on le lance toujours le même et on le lance... Enfin, c'est un D6, oui et, oui machin, oui mais. Et il ne dépend pas des caractéristiques des personnages. Par contre, les dés de narration qui permettront de savoir qui racontera l'échec ou la réussite de l'action, ces dés, ils dépendent des caractéristiques du personnage. Alors, là, c'est assez intéressant parce que quand on lit ça, on a l'impression que c'est un bug du système. Parce que finalement, la réussite des actions ne dépend pas des caractéristiques du personnage. C'est quand même un petit peu étrange. Mais en fait, c'est extrêmement cohérent avec l'univers, puisque le danger dans Explo-Narrateur, c'est pas de rater ses actions, c'est de rater son histoire. Donc ce qui est important, c'est pas de réussir ce qu'on fait. Enfin, même un échec peut mener à une histoire extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de raconter quelque chose d'intéressante, et du coup, d'où l'intérêt de garder la narration. Alors, dernier élément de système, on a ce qu'on appelle des points de narration. Ces points de narration, on les gagne quand on réussit des jets de dés, c'est-à-dire quand on réussit à récupérer la narration, et on peut les dépenser pour pas mal de choses. On peut d'abord les dépenser pour relancer les dés, mais on peut aussi les dépenser pour rajouter des éléments dans l'intrigue ou pour des choses plus amusantes, par exemple s'affranchir des limites chronologiques de la narration. Donc on peut demander, en dépensant un point de narration, que la scène qu'on est en train de jouer soit un flashback ou un flash-forward. Donc voilà pour l'usage des...
C'est quoi le flashback et le flash forward dans ce contexte-là?
Alors, ici, on raconte une histoire et par défaut, cette histoire, c'est une succession de scènes qui se suivent dans l'ordre chronologique, comme dans la plupart des fictions. Si on décide de... Si on a envie de raconter, de vivre une scène qui se passe avant une scène qui a déjà été jouée, il faut pour cela dépenser un point de narration pour avoir un flashback. Et de même, si on a envie de faire un flash-forward, donc de faire une grosse ellipse, de dire 15 ans après, en sachant que la scène d'après, on va revenir dans la trame temporelle de base, là, il faut aussi dépenser un point de narration.
C'est intéressant parce qu'on peut se retrouver à poser des éléments de l'histoire qui vont ensuite avoir un impact sur les autres scènes que l'on va faire. Finalement, tout d'un coup, on dit, de toute façon, notre histoire, elle va aller vers ça.
Tout à fait. Et en réalité, quand on joue la partie, il y a cette idée que les personnages, les explorateurs, vont chercher à discuter entre eux, donc à se réunir loin des PNJ, et ils vont s'arrêter, ils vont se dire « Bon, tu vas bientôt réussir à te marier avec le roi, ce serait vraiment intéressant qu'au moment des vœux de mariage, tu lui dises non, tu lui mettes une grosse baffe. » Et là, non, moi j'ai envie de sortir avec lui, je trouve ça quand même intéressant.
Il est roi quand même.
Il est roi, c'est quand même assez cool, moi j'ai envie d'une fin romantique, etc. etc.
Et là, l'autre, en fait, tu peux dire plutôt, non, toi, tu vas intervenir pendant cette cérémonie, tu vas dire, non, ce n'est pas celle que vous croyez.
Bah, exactement.
Et là, tatin.
Voilà. Le roi est une femme. Et... Le pape est une femme. Déjà arrivé.
Oui.
Et si en plus, dans ce moment, dans la scène, il y a le MJ qui décide de faire intervenir un PNJ, là on est embêté, on est obligé de parler derrière le PNJ, il faut pas que le PNJ ne comprend pas pourquoi on raconte ça. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une idée qui est créatrice de jeu et qui est très très amusante dans la partie. Alors maintenant, mon avis sur le jeu, c'est que c'est vraiment un très bon jeu. Donc c'est un très bon jeu pour deux raisons. D'abord, c'est un jeu qui permet, à mon avis, de réconcilier deux types de joueurs. Donc, de réconcilier les joueurs qui sont amateurs de jeux de rôle traditionnels et les joueurs qui sont amateurs de narration partagée.
Je sens, toi, le narrativiste.
Alors, j'allais dire, toi, t'aimes bien Blistage.
Alors, exactement. Moi, je suis un grand amateur de jeux à narration partagée. Et il y a beaucoup d'amis qui préfèrent les jeux traditionnels qui me disent « Moi, j'aime bien la narration partagée, mais ça me pose problème parce que ça m'amène constamment à sortir de mon personnage et à m'obliger à avoir une réflexion méta sur l'intrigue. » Alors moi, ce que j'aime, c'est être dans mon personnage. J'incarne Hermione et je veux...
Et te plonger dedans à
voilà,
fond, quoi.
Et je réfléchis comme si j'étais Hermione.
Tu sors.
Tu veux te plonger dans Hermione?
Mais non, c'est pas du tout ce que... Franchement, tu... Hein? François.
oui, bien sûr. Oui.
Le regard de Cobal était parfaitement neutre. Et donc je pense
franchement, une innocence totale.
Bon, bref. Vas-y.
Mais donc, ici, dans le jeu, il n'y a pas ce problème parce que l'objectif des personnages, c'est explicitement de raconter une histoire intéressante. Donc, en fait, on incarne quelqu'un qui cherche non pas à réussir dans la vie, mais qui cherche à avoir une vie qui est une histoire intéressante. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super.
Et une vie intéressante, c'est une vie pleine d'emmerdes.
Bah, c'est ça, ça est régulièrement. Ouais. Et notamment, on peut parfaitement faire une partie qui soit une tragédie. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure. Et on peut parfaitement. Comme le fait d'avoir son personnage qui meurt ne pose pas de problème aux explo-narrateurs, ils peuvent parfaitement décider ça serait vraiment hyper chouette qu'à la fin, je me suicide d'amour pour toi.
Waouh.
Voilà. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de jouer dans les jeux de rôle habituels. La tragédie, c'est rare que les joueurs aillent dans cette direction. On va préférer réussir le scénario.
Sauf dans René,
effectivement.
C'est marrant, on en parlait tout à l'heure, mais bref.
Alors.
Si, on en parlait avec le D20.
On reviendra là-dessus.
Ouais, je vois pas vraiment le rapport avec René, mais.
Tu verras un jour.
Je verrai, formidable. Alors, et sinon, donc, la. Autre raison qui fait que ça pourra réconcilier les amateurs de jeux de rôle traditionnels et les amateurs de narration partagée, j'ai parlé de MJ, j'ai parlé de PJ, mais j'ai pas vraiment dit est-ce que le MJ c'était toujours le même. En fait, on a le choix et on a le droit d'avoir un MJ tournant. Donc à chaque scène, quelqu'un d'autre est le MJ. Mm-hmm. Et donc on est tous alternativement MJ et PJ. Mais ça c'est la version par défaut du jeu. Mais Saladin, il a un paragraphe qui dit « Bah, écoutez, si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus traditionnel, vous pouvez parfaitement fixer le MJ, ça sera toujours le même MJ dans la partie, et il bougera pas. » Et moi, je trouve ça vraiment génial parce que moi, ce paragraphe a vraiment beaucoup changé ma façon de lire les jeux de rôle. Maintenant, à chaque fois que je lis un jeu de rôle, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée que ce jeu de rôle ait un MJ ou est-ce que c'est une bonne idée que ce jeu de rôle n'ait pas de MJ? Et y a des jeux de rôle où c'est des jeux de rôle qui ont des MJ, on se dit, bah, en fait, on a envie qu'il n'y ait pas de MJ. Ou à l'inverse.
Ça pourrait être en partagé, quoi.
Voilà, c'est ça. Et en fait.
Si tu joues à Nobilis, par exemple, ou à Ambre.
Bah, c'est ça, oui. Et même, en fait, il y a beaucoup de jeux de rôle qui nécessitent peu de préparation, où on pourrait parfaitement se passer de MJ. Et Saladin a vraiment. Il y a vraiment une simplicité dans l'idée, quoi. C'est vraiment trois phrases. Faites ce que vous voulez, ayez un MJ ou n'ayez pas de MJ. Et on se rend compte que bah, ça ne change pas grand-chose et que les deux alternatives sont parfaitement viables.
D'accord. Et dans le MJ en lui-même, il n'a pas de. Il a une influence sur la fiction ou pas du tout?
Alors, il a une influence sur la fiction, puisque au cours d'une scène, il y a un MJ, il y a les PJ. Donc finalement, le MJ a un rôle plutôt classique. Enfin, voilà. C'est juste que son rôle change de scène en scène. Il y a un truc qui sort un petit peu du rôle de MJ,
C'est-à-dire qu'il récupère le personnage précédent, du coup?
Alors non, il récupère les autres personnages, puisque les joueurs qui ne sont pas MJ à ce tour-là vont incarner leur personnage, et lui va incarner son personnage et le reste de l'environnement, comme dans un jeu de rôle classique.
Ah, donc en fait, il y a un espèce de... C'est les personnages qui suivent sans agir...
Les suivants
les... Non, c'est dans mon groupe de joueurs, on appelait ça les imhotep, tu sais,
les joueurs qui suivent l'action sans rien dire, sans rien faire.
Non, mais c'est plutôt les personnages de rechange type Cthulhu. Et là, tu as le personnage du MJ. Il n'est pas vraiment actif dans une scène. Souvent, le MJ a plutôt tendance à le délaisser pour faire vivre le reste.
Oui, tout à fait. C'est assez difficile de à la fois jouer son personnage et d'endosser le rôle du MJ. Et donc voilà. Donc moi, je pense que c'est un jeu de rôle qui est un jeu de rôle fraternel où on va tous pouvoir se donner la main, traditionnaliste comme narrativiste, et on peut jouer avec vraiment n'importe qui. Donc c'est un jeu qui est très difficile à troller sur les forums. C'est peut-être pour ça qu'on en parle aussi peu.
Au contraire, il y a toutes les raisons de troller. Il suffit de prendre le contre-pied. Mais bon.
Ouais. Bah, moi ça me...
Mais visiblement tu as été conquis.
Alors je suis vraiment conquis. Il y a une deuxième raison qui fait que je suis conquis, et on a eu l'occasion de beaucoup en parler, c'est qu'il y a une dimension méta. Donc en fait, quand on regarde bien, c'est un jeu de rôle qui met un jeu de rôle en abîme, puisqu'on incarne des explo-narrateurs qui incarnent eux-mêmes des personnages, et dont le but c'est à la fois d'incarner un personnage et de raconter une bonne histoire. Finalement, en fait, on est dans un jeu de rôle où on incarne des joueurs de jeux de rôle.
Alors, c'est pas hyper nouveau, enfin, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit, ça a l'air bien fait, mais t'avais déjà un jeu qui datait des débuts d'Internet, qui s'appelait Virandia, et j'en ai déjà parlé dans un précédent Radio Rôliste.
Oh la vache, ah oui, c'est pas neuf ça. Hein.
C'est pas neuf Virandia, mais c'était un excellent jeu. Et,
c'est vrai?
Ah ouais, c'était vraiment très bien. Et enfin, moi je me souviens que c'était très bien en tout cas, et notamment tu jouais des joueurs de MMORPG. Mais grandeur nature, c'est-à-dire que les mecs ils se foutaient dans une cuve et en fait ils jouaient dans cette cuve un personnage d'un MMORPG Medfan classique dans lequel ils pouvaient y avoir des choses. Et ce qui était intéressant, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, ce que moi je trouvais très bien, c'est que t'avais trois niveaux de jeu. T'avais un niveau de jeu où tu jouais juste le personnage du MMO avec ses caracs et ses compétences et voilà, et tu jouais que lui, d'ailleurs c'était le niveau de base proposé. Il y en avait un deuxième où tu jouais beaucoup du MMO et un petit peu les personnages normaux de temps en temps quand ils étaient à l'extérieur, ce qui pouvait leur arriver des aventures. Et t'avais le niveau que moi je préférais, qui était où vraiment tu mélangeais tout complètement. C'est-à-dire que les événements dans le MMO avaient un impact sur le monde réel et ainsi de suite. Donc tu jouais deux personnages, l'un jouant l'autre.
Je trouve ça assez génial, quoi. Je voilà. Ça, finalement,
ouais, un monstre t'attaque et on sonne à la porte.
Ouais, alors sans aller jusque-là. Mais il y avait des histoires, notamment, pour aller retrouver le concepteur du jeu qui était paumé dans Virandia alors qu'on n'arrivait pas à retrouver son corps à l'extérieur.
Il y a un peu ce genre de choses dans Assassin's Creed.
Ouais, bah, c'est exactement Assassin's Creed. C'est le même, enfin c'est pas Virandia, mais ce qu'on décrit là c'est le même principe que Assassin's Creed aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu le background.
Ceci dit, oui, dans Explo-Narrateur, ce côté méta il est plus sous-jacent, puisqu'on n'incarne pas explicitement des joueurs de jeux de rôle. Et Voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fantastique. En cinéma, on a beaucoup de films où on dit que c'est des films qui ont un discours sur le cinéma. Il y avait beaucoup de films, par exemple les films d'arnaque, qui sont des films qui parlent de cinéma. C'est des les films d'arnaque sont des films qui parlent de mise en scène. Ici, on a un jeu de rôle qui nous parle de jeu de rôle, puisque on nous parle de ce que c'est qu'être un PJ dans le jeu de rôle.
Justement, ça m'amène une question.
Pause.
Selon toi, c'est un jeu qui peut s'adresser à des néophytes ou qui va être plus intéressant pour des rôlistes qui ont envie de soit de renouveler leur façon de jouer, soit carrément d'avoir cette mise en abîme, cette interrogation sur finalement ce qui les pousse à jouer.
Alors je l'ai dit, c'est un jeu de rôle fraternel, donc je pense que ça peut à la fois intéresser les néophytes, surtout qu'il s'agit d'un jeu qui est d'une grande simplicité, c'est assez léger dans les règles, mais c'est aussi un jeu de rôle qui amusera beaucoup les vieux routards que nous sommes, parce qu'il y a cette dimension méta.
D'accord.
Est-ce que vous avez des questions ?
Vas-y. Et du coup, ce qui est présenté, c'est plus un concept qu'une application. Parce qu'il n'y a pas de comment dire, il y a des exemples d'univers, enfin de scénarios qui plongent dans un univers spécifique.
Alors oui, il y a des exemples d'univers. Les univers, donc c'est des fictions, et ces fictions, elles prennent la forme d'un nuage de mots qu'on va utiliser durant toute la partie.
À quoi sert la forme du nuage de mots ?
Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a pas énormément convaincu. Je crois que la forme, ça amuse beaucoup Saladin, mais ça n'a pas un impact particulier sur le système. Le fait d'avoir un nuage de mots qui ressemble à une chauve-souris ne change rien.
D'accord, c'est juste pour dire le scénario, on va faire du Batman. Quoi.
C'est ça, exactement. Il y a une fiction qui est Batman et où il y a un nuage de mots qui ressemble à une chauve-souris dans le bouquin.
C'est ultra concept en fait. C'est-à-dire, c'est pour animer ce concept, il propose des concepts de scénario.
C'est ça, exactement. Mais en fait, ces concepts sont suffisants. On peut se ramener au début de la partie, on a imprimé 5-6 nuages de mots, et on dit à nos joueurs, vous voulez jouer dans quoi ? Et on choisit. Est-ce que vous voulez jouer Batman, ou Western, ou Harry Potter, ou Pride and Prejudice ?
Voici une page de 120 000 mots.
Débrouille-toi avec ça. C'est une histoire intéressante.
Non, le nombre de mots est limité à 15-20, puisque Saladin nous propose des règles pour créer soi-même son nuage de mots.
Puis t'es obligé de les utiliser, de les cocher au fur et à mesure, alors s'il y en a 400...
Alors t'es pas obligé de cocher tous les mots, t'es obligé de cocher un mot par scène, mais tu en laisses à la fin de la partie.
D'accord. Et le fait de le cocher, ça apporte quelque chose, c'est une plus-value.
C'est une contrainte sur la narration, c'est-à-dire que le MJ est obligé d'intégrer cet élément dans l'histoire.
Je suis conscient de la contrainte, mais est-ce que cette contrainte a une contrepartie sonnante et trébuchante pour le personnage ?
Non, c'est une obligation.
Oh là, pour le compte, je dirais que la contrepartie est au niveau de l'intérêt de l'histoire. Est-ce que si tu coches le mot, ça veut dire que tu ne vas plus l'utiliser. Si tu ne vas plus l'utiliser, tu es obligé d'avoir recours aux autres mots, donc de renouveler ton histoire. Ça t'évite d'avoir 6 scènes dans lesquelles il est question de balai dans ton aventure Harry Potter.
Alors, c'est vrai, mais avec un bémol, c'est qu'il y a dans chaque nuage de mots, il y a des mots qu'on retrouve 2 ou 3 fois. Donc, en fait, on peut parler plusieurs fois de balai.
C'est le même mot partout.
Oui, mais justement, les mots qui reviennent plusieurs fois, ça permet en plus de leur donner un poids, donc d'indiquer aux meneurs, d'indiquer à tous les joueurs que cet élément a vraiment une importance et qu'on peut le retrouver plusieurs fois.
Il y a ça, mais je pense aussi que l'une des idées de Saladin derrière ce nuage de mots, c'est de rendre la partie plus difficile. Après tout, l'idée, c'est qu'on joue ensemble, on essaye de réussir à raconter une histoire intéressante et on se met une petite contrainte. On se met la contrainte, c'est qu'à chaque scène, on va devoir cocher un mot.
Alors là, ce qui est rigolo, c'est que dans ton nuage de mots, tu rajoutes des trucs vraiment débiles, genre brouette ou ta manoir, et après, tu essayes de voir
ce que c'est.
Alors, l'idée, c'est que normalement, les mots sont en rapport avec la fiction. Si finalement, on a ta manoir, c'est-à-dire que... on est dans un univers fictionnel qui a un rapport avec les tamanoirs. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Tamanoir RPG.
Si on n'a rien d'autre, on va faire la pause maintenant.
Tamanoir hanté.
Tamanoir hanté. Est-ce que tout le monde est OK ?
Ouais, ça roule.
Bah, écoute, merci Steve, on va faire une petite pause maintenant.